Campus Angers. Ah.
Essaye avec un masque. Essaye de parler avec un masque. Vas-y, chiche.
L'Afterwork avec Olivier Pia.
Oui, chers amis, du jeudi, le rendez-vous de l'Afterwork est hebdomadaire et chaque semaine, je me plais à recevoir des personnalités, des gens qui ont des choses à dire ou à rêver, à revendiquer ou à partager. Et cette semaine, c'est tout ce programme cumulé qui sera abordé dans cet Afterwork. Afterwork que j'ai intitulé du contre-pouvoir parce que j'ai le sentiment d'avoir près de moi des gens qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent via un organe de presse. Pour l'un, via la chanson, pour l'autre, l'organe de presse, vous allez peut-être le découvrir avec nous, c'est la Topette, tout nouveau journal angevin, mais qui aborde des sujets bien plus vastes. Journal qui se veut, suivant sa propre devise, local, populaire et indiscipliné. Pour nous en parler, et pour présenter ce journal et évoquer son premier numéro, Julien Collinet. Bonjour Julien.
Bonjour.
Et bienvenue dans l'Afterwork du contre-pouvoir. Est-ce que ça te parle, ce qualificatif de contre-pouvoir ?
Bah, contre-pouvoir, en tout cas, c'est un des rôles que doit tenir, à mon avis, la presse. Et nous, c'est ce qu'on essaye aussi de tenir. Donc, c'est-à-dire contre-pouvoir, c'est-à-dire essayer de gratter un peu ce qu'il y a derrière le discours politique, le discours officiel. Et c'est notamment ce qu'on veut faire avec la Topette.
Ouais, c'est vrai que c'est assez politique. Et puis, celui qui use et abuse du contre-pouvoir en chanson, c'est l'ami Sébastien Rousselet. Salut Sébastien.
Salut Olivier.
Aujourd'hui, Sébastien, c'est le groupe Rookin qui veut autant aborder les thèmes sociaux que Babel, ton ancien groupe, abordait les thèmes politiques. Ça te va si je te dis que tu es un artiste de contre-pouvoir, toi ?
Bah, si tu le dis, je veux bien te croire. Après, je pense qu'un artiste... j'espère ne pas me limiter à un rôle de contre-pouvoir, c'est-à-dire un rôle militant et engagé, entre guillemets, avec tout ce que ça peut comporter d'un petit peu bâtard comme appellation. Mais c'est bien, des fois, d'appeler un chat et de ne pas avoir peur de déplaire. Donc à ce titre, ça peut être bien d'être un peu contre les idées reçues, globalement. Quoi.
Oui, sans être contre tout, mais voilà. Bon, quand même. Pour la team de l'Afterwork, la réalisation est assurée par Clément Looping. Salut Clément.
Salut.
Tu peux toi aussi jouer les contre-pouvoirs et dire des gros mots à l'antenne si tu veux.
Ok. Oui, vas-y Clément.
Ou créer un putsch. C'est possible. Et puis, à mes côtés, pour découvrir ses contre-pouvoirs, celui qui aime être contre aussi, mais tout contre la femme des autres, Nicolas Auvinet qui vient d'arriver. ça tombe bien.
Comment je dois le prendre ça? Moi, j'ai quelques trucs pour toi aussi, t'inquiète
pas. Prends-le très très bien, écoute. Nicolas Auvinet, direction de la librairie Richer, qui distribue la Topette. On abordera aussi cela, les endroits où trouver la Topette. Et Nicolas qui aura le plaisir de s'entretenir ce samedi à la librairie Richer contre, tout contre, en respectant un mètre de distanciation, la romancière Julia Kerninon.
Exactement.
Voilà, rien à voir avec le créateur du Ni Oui Ni Non. Non, bien sûr, qu'il est drôle.
Perdu.
Merci d'être avec nous pour une heure d'Afterwork qui débute après ceci.
Voilà. L'Afterwork sur Radio bien. Campus Angers. 103 FM, Internet, podcast, radiocampusangers.com.
Ça fait des voix étouffées quand même avec les masques, hein, mais bon, on se comprend quand même. Les pieds dans le plat. Bon, on parle de la Topette. Qui sont les créateurs, les 2-3 créateurs en quelques questions? Comment se connaissent-ils? Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur parcours pour retrouver la paternité puis la maternité de la Topette?
Alors, derrière la Topette, à la base, il y a tout d'abord 3 journalistes qui sont des journalistes professionnels. Donc, c'est-à-dire qu'on est attaché à ça parce qu'on veut proposer une information fiable, vérifiée, de qualité. Mais on n'est pas seul, hein. Il faut plus de monde pour faire un journal. Il y a aussi des illustrateurs locaux, on a tenu que ce soit des angevins qui illustrent ce journal. Et puis, il y a une graphiste. Et puis, il y a plein de petites mains, surtout, qui nous aident pour la distribution, la communication, pour tout ce genre de choses qui sont bien utiles pour avoir sorti ce canard.
Mais ça, c'est un constat de comment s'appellent les 3 personnes? Donc, il y a toi, Julien.
Il y a Marie, l'autre journaliste, et Sylvain.
Marie et Sylvain. Et vous êtes partis d'un constat qu'il manquait quelque chose à Angers, un contre-pouvoir?
On a la chance d'avoir quand même 2 quotidiens à Angers, 2 quotidiens, presse quotidienne régionale. Mais après, c'est vrai qu'en presse plus magazine, il n'y avait rien. Et notamment, qui fait de l'investigation, il n'y a pas grand-chose sur le territoire. On trouvait que ça manquait. Avant, il y avait quelque chose qui s'appelait Angers Mag, qui plaisait pas mal aux angevins, je crois. Bon, malheureusement, c'est fini. Et on essaie un peu de se mettre sur ce créneau-là, parce que nous, on est trimestriel, donc on a encore plus le temps de faire des enquêtes de fond, de pouvoir investiguer, de proposer quelque chose de différent. Et c'est pas sorti nulle part, parce qu'il y a d'autres journaux en France sur le même modèle que nous, qui marchent, qui fonctionnent, qui existent depuis plus de 10 ans. Je pense notamment au Postillon à Grenoble, ou plus près de chez nous, en Vendée, il y a un journal qui est plus un canard enchaîné local, qui s'appelle Le Sans-Culotte.
Provocateur.
On rappelle ce qu'est un journaliste, peut-être qu'il doit vérifier ses informations. Ça, c'est de l'investigation dont tu parlais, évidemment. Peu de journalistes de presse quotidienne régionale, le PQR, en ont le temps et les moyens.
Disons qu'ils doivent paraître tous les jours et c'est pas facile de sortir un canard chaque jour, donc ils sont plus dans l'info immédiate, ce qui est normal. Hein. Ouais. Nous, justement, on veut se permettre de faire ce qu'ils n'ont pas le temps, quoi, et de creuser plus certains sujets.
Et puis, il y a le poids aussi, la pression, on va dire, financière, parce que les journaux, évidemment, qui ont de la publicité, peuvent peut-être être un peu moins bavards.
Il y a des exemples, en tout cas, au niveau national, de presse. Nous, on a tenu à ne pas avoir de publicité, ça, c'était important. Ouais. Mais c'est sûr que la publicité peut être un moyen de pression sur les journaux. Je pense par exemple, notamment, il y a eu des exemples de M6 qui avait fait des enquêtes sur McDonald's et sous la pression de l'annonceur a décidé de retirer ses enquêtes. Ou je pense un cas beaucoup plus connu, qui est le cas de Libération, qui avait fait sa couve sur Bernard Arnault qui devait s'exiler fiscalement en Belgique. Bah, la réponse de LVMH, tout simplement, ça a été de couper les pubs pendant un an. Donc là, on peut voir qu'il y a vraiment un moyen de pression financière des industriels par la publicité.
Donc le journalisme, c'est de l'investigation, on en parlait, et de la déontologie. Ça, c'est important aussi. C'est quoi la déontologie pour un journaliste? C'est ne pas tirer sur l'ambulance?
Pas tirer sur l'ambulance, non. C'est un ensemble de règles qui font le métier. C'est-à-dire, par exemple, dans un article, quand on attaque quelqu'un, c'est aussi lui donner la parole. Mmh. Parce que pas donner la parole qu'à une des parties. C'est aussi respecter le secret des sources. C'est tout un ensemble de choses. Et c'est d'être plus généralement, de faire son travail de façon intègre, je pense.
Deux courts extraits de l'onglet « C'est quoi la topette ?» disponible sur latopette.fr. Je cite « Peu prompte à courber l'échine devant ceux qui nous dirigent politiquement et économiquement, la topette s'engage à égratigner les puissants et à décrire la réalité des gens. » Ça, c'est écrit sur le site. Et puis aussi, elle se veut avant tout un nouvel outil de débat, de réflexion et de lien social au service des habitants du Maine-et-Loire.
Tout à fait.
Ça, c'était vraiment, ça
justement,
fait partie.
Justement, ça, c'est une des choses qu'on veut vraiment faire, c'est être un outil de lien social, oui, et aussi un outil de débat, de réflexion, parce qu'on veut redonner des billes aux citoyens sur des sujets qui ne sont pas souvent traités par la presse nationale, qui est beaucoup centrée sur Paris, alors qu'il se passe plein de choses dans nos régions, et notamment dans le Maine-et-Loire. Et bien, c'est de les faire réfléchir à ces choses-là, pour un peu les réarmer, en fait, politiquement, et réfléchir au monde auquel ils vivent, et surtout leur redonner la parole. Parce qu'on l'a senti ces derniers mois. Moi, j'ai beaucoup suivi pour mon travail le mouvement social des Gilets jaunes. Mmh. Et il y avait un vrai besoin d'une partie de la population de s'exprimer, notamment dans les campagnes, où quand on habite dans les campagnes, on voit la désertification des services publics, notamment. Enfin, il y a plein de problèmes. Et ces gens-là, on a l'impression qu'ils n'ont jamais la parole, ou pas assez en tout cas, et on veut leur redonner.
Tes consoeurs et confrères sont très attachés au territoire angevin, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Toi, tu n'es pas... Enfin, tu es...
Je suis un néo-angevin, oui.
Angevin, voilà. Arrivé récemment. Eux sont du coin. Il y avait une volonté vraiment de s'attacher au territoire angevin.
Tout à fait.
Auquel toi, tu t'es rattaché.
Moi, ça fait 2 ans, mais par exemple, Sylvain, lui, est dans le Saumurois, et Marie, elle est née à Angers, et a vécu ici.
Nicolas, Sébastien, si vous voulez dire quoi que ce soit, n'hésitez pas.
On écoute, c'est très intéressant.
Moi, si, je peux en parler par rapport, en tant que diffuseur.
Oui,
voilà, je propose la librairie. Ce qui m'a impressionné, c'est que nous en avons entendu parler, mais c'est presque l'effet bouche à oreille qui était incroyable. Là, on a, je sais plus, on a combien, 50 exemplaires vendus.
Ouais, ce qui est beaucoup.
Ce qui est beaucoup, en quoi, en 2 semaines de vendeurs, en plus qu'on a raté la première semaine, nous, parce que je tairai le nom de la personne qui a gardé quelques exemplaires dès sa sortie dans son bureau. Hein, et donc, on cherchait partout. Donc, ça a fait le grand bonheur d'Olivier, du diplomate. On a renvoyé tout le monde. On savait qu'il était au diplomate. Vous l'avez, oui, vous l'avez. Et puis, on regardait sur un an. Effectivement, on était sur le site. Depuis, nous l'avons, effectivement. Il est bien en évidence. Ce qui est intéressant, c'est que on voit, nous, on diffuse pas mal de journaux. Et je trouve qu'il y a un côté un peu dans le format, entre le courrier international, entre le 1. Il y a quelque chose qui...
C'est assez illustré aussi.
Dans l'objet, il y a quelque chose de très intéressant, à la fois facile à prendre. Pardon.
Merci.
Et on peut vraiment accéder à cette information. Puis, effectivement, c'est toujours intéressant, surtout dans cette période où on voit que le journalisme est critiqué, de par ce que vous disiez juste avant. Je pense que le journaliste peut reprendre ses lettres de noblesse justement par ses titres indisciplinaires un petit peu. C'est très bien. Merci d'exister.
La Topette. Quelle est l'ambition de ces créateurs? C'est pérenniser le trimestriel, essayer d'en faire davantage ou faire un coup
fois tous les 3 mois? Non, c'est pas un coup. C'est on veut se installer dans le paysage médiatique angevin. Ça c'est clair. Si on a fait ce journal, on a vraiment réfléchi. Donc c'est pour s'inscrire dans la durée. Et voilà, donc on a déjà plein d'idées pour les prochains numéros, il y a plein de choses à faire ici, donc ça va continuer.
Alors il y a une réalité économique quand même, est-ce que la Topette est faite pour être rentable à terme, parce que là c'est du bénévolat pour beaucoup en tout cas?
Tout à fait.
Il y a de la pub ou pas dedans?
Pas de pub, ça on y tenait.
Pas du tout, à part pour le prochain concert de Rocket, mais bon, autant il n'y a pas de pub.
La réponse était contenue dans ma question, je m'en doutais bien.
Donc oui, nous on veut bien
vous financer. Nous on veut bien vous financer un gros logo.
Est-ce qu'il y a, je sais pas, il y a évidemment des locaux, il y a des choses qui doivent peut-être demander un tapis économique, quoi.
Bah c'est complètement bénévole et après quand on nous demande s'il y a un business plan, en fait il y en a juste pas parce que on fait pas ça pour le fric, ça c'est clair. On s'est mis en constituant une association. Donc l'idée, c'est juste de rentrer dans nos frais. Et franchement, vu comme c'est parti, ça a déjà fait depuis longtemps. On a tiré à 2000 exemplaires et en fait, on a déjà tout vendu. Donc on est en train de réimprimer là une nouvelle fois, tellement ça marche. Donc on est plutôt confiant. Il y a vraiment un effet bouche à oreille. On n'a pas mis un centime dans la com.
Ça veut dire aussi, si je peux me permettre, qu'il y avait une vraie demande de la part des gens, qu'il y a un journal local. Et peut-être même critique.
Tout à fait, ça prouve qu'on dit que la presse est moribonde, mais qu'en fait il y a une demande et peut-être deux choses un peu différentes. Et justement, qu'on critiquait beaucoup la presse, donc c'est facile de la critiquer. Nous justement, en tant que journaliste, on veut montrer qu'il y a encore moyen de faire des choses et qu'elle est importante dans la démocratie aujourd'hui.
Et il dit ça, vous ne le voyez pas, mais avec le poing levé, avec la main sur le cœur.
Puisque la rédaction est offensive, on va en parler plus en détail, cela appelle aussi la défense de certains. Donc est-ce qu'il y aura dans les prochains Topettes un droit de réponse, par exemple, sur certains articles?
Le droit de réponse, en fait, nous, on a donné la parole à tous les gens qui étaient...
Dans le cadre de l'enquête?
Dans le cadre de l'enquête, certains n'ont pas voulu répondre. Quand ils ont voulu répondre, on leur a donné largement la place. Donc effectivement, dans la loi, si on ne donne pas ça, on est en droit de demander un droit de réponse. Mais là, on est vraiment béton.
C'est un outil uniquement papier.
Tout à fait.
Il y a un site internet qui relaye un petit peu les informations, les points où on peut vous trouver, deux, trois choses, mais les articles resteront sur papier.
C'était une volonté de faire un portrait par rapport au tout numérique. On est très attaché aussi, on lit beaucoup d'informations en ligne, mais c'est important, notamment quand on fait des enquêtes, des papiers assez longs, ce qu'il y a dans la Topette, de prendre un peu de recul. Et je pense que l'objet de papier est vraiment adapté à ça. Plutôt que souvent sur Internet, on navigue d'un onglet à un autre, on oublie un peu ce qu'on a lu. Et puis c'est aussi un objet de lien social parce qu'on aime bien le côté que les gens, on se dise, ah, il a acheté chez leur buraliste, pourquoi pas cause 5 minutes avec lui. Ça recrée du lien social de se déplacer, pas de rester derrière son ordi toute la journée.
Certains pourraient dire que c'est un outil anti-béchu. Il y a quand même pas mal d'articles sur la politique et plutôt, et plutôt contre le pouvoir en place, pouvoir en général. Une position. Systématique anti, qu'est-ce qui pourrait faire glisser un article de populaire à populiste?
Populaire à populiste, anti-béchu, non, en fait, il y a des dossiers que porte la mairie, c'est normal qu'on s'intéresse à ça. Après, à ses projets, c'est jamais aux personnes, ça c'est un interdit qu'on se donne, on s'attaquera jamais à la vie privée ou ce genre de choses.
Ça fait partie de la déontologie, puisque
tout
vous êtes journaliste.
Évidemment. On s'attache aux faits, rien qu'aux faits. Populaire et pas populiste, non, parler des gens, c'est pas populiste à mon avis, c'est populaire, oui, mais...
Ouais. Non, c'était une question, c'est pas du tout... Nicolas ?
Non, le seul bémol, c'est que vous n'avez fait aucun papier sur Olivier Piat. C'est inadmissible. Parce que quand je vois le journal local, c'est la représentation même de cette localité. Populaire ! Olivier Piat, on ne peut plus populaire. Bon, discipliné, ça. Bon, ça reste à discuter.
Beaucoup d'informations sont... comment dire ? La réalité aujourd'hui, c'est vrai que l'actualité, elle est souvent triste. On est dans un monde qui ne pardonne rien. Est-ce qu'il y aura une place pour des informations joyeuses des choses un peu feel good, un peu plus légères.
Bah, on s'est beaucoup concentré sur le premier numéro, et c'est vrai qu'on y va fort.
Ou des bonnes nouvelles, tu vois.
Des bonnes nouvelles, Olivier.
Bah, si, mais c'est une vraie question.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Non, c'est vrai, mais du coup, il y avait des choses qu'on avait dans nos dossiers qu'on voulait vraiment sortir.
Bien sûr.
Et après, oui, il y aura des papiers un peu positifs, hein, heureusement. Oui. Mais on ne veut pas faire que ça, ça c'est clair, parce que l'information, c'est aussi dénoncer certaines choses, c'est aussi révéler certains lièvres. Et voilà.
C'est intéressant, c'est super intéressant. Nous, on s'éclate, hein, tous les trois. On a lu et parcouru. Et vous avez maintenant une idée de ce qu'est la toupette. On détaille son contenu dans quelques instants. Non sans prendre des nouvelles du gars Rousselet. Sébastien Rousselet et son acolyte.
Nino Vella.
Évidemment, Nino Vella, qui ont créé Rookine. Et quel bonheur. On se met dans l'ambiance avec quelques extraits. Avant de savoir ce que tu viens nous annoncer comme bonne nouvelle, toi aussi, pour cette rentrée. Une thématique qui paraissait fantasque quand Paul Naref chantait Goodbye Marilou. Et pourtant, le sujet est le même. On en parlera aussi avec la topette qui intitule une page Angers, les robots prennent le pouvoir. Écoute Cyborg. C'est un extrait.
Je n'ai pas fait tout ça pour rester, ça je m'en connectais, loin de toi pour t'aimer. Je suis
c'est génial. C'est toi? C'est toi qui chante? Arrête.
Là, on entend surtout la voix de Nino. Nicolas, il y en a deux à chanter.
Ah, bah voilà. Voilà.
Toi qui écris les paroles, Sébastien, tu sens que ça nous échappe là. On part pour être totalement déshumanisé, parce que c'est ce dont parle cette chanson, Cyborg.
C'est un risque, c'est quand même très à la mode en ce moment, technologie galopante vers laquelle on n'a pas le choix que d'aller parce que c'est le progrès, c'est comme ça et puis c'est tout, donc on va potentiellement vers quelque chose qui nous échappe, donc cette chanson elle parle de ça, c'est une chanson on pourrait dire technocritique, voilà, c'est pas technophobe, hein. On m'a dit une fois c'est un peu technophobe,
waouh,
ouais. Mais parce que, voilà, dès qu'on critique, on passe pour être négatif et pour être phobique, tu vois. Et
on a du bonheur partout, tout le temps.
Être critique, c'est juste faire un état des lieux et c'est poser la question. Dans cette chanson, moi, je questionne beaucoup. Hein. Je n'énonce pas de vérité, je me pose plein de questions. Là, on les a pas trop entendues, mais si ce n'est à la fin, nous deux, est-ce qu'on fera encore l'amour, quoi? Si on est hyper connecté et qu'on est tous chacun chez soi, est-ce que on va pas faire de la télébaise, quoi? Hein, parce que ça va finir comme ça, quoi. C'est quoi le projet? Donc,
c'est la chanson de Paul Naref dont je parlais tout à l'heure, qui a 40 ans.
Exactement. C'est juste des questions qui se posent là-dedans, qui sont légitimes. Je pense que si on se pose pas ces questions-là, si on peut plus légitimement se les poser, on est déjà en train de perdre notre humanité avant même d'être des robots, parce que ce qui fait notre humanité, c'est quand même de se poser des questions.
Et puis dans la famille Rookine, je demande mon petit chouchou, tiens, la chanson s'appelle Mortel, extrait. Je fais karaoké aussi des fois.
Arrête, s'il te plaît.
Je prends ma tête en otage. Je vais profiter comme un salopard. C'est mon jour de départ. C'est mon jour de départ. Y'a rien de criminel, à trouver ça mortel, à trouver ça mortel. J'ai un super toubib, un vrai tueur. J'ai confiance, il a la palme. Il me dit qu'il me reste 24 heures. Sans ordonnance et au calme.
J'adore cette chanson.
Je casse mon ultime verre de vodka. Comme dans un film de Costa Rica. Même s'il y a une âme au fond de ma viande. Même au bord des flammes, je t'aime et je bande. Ça me tord le bide de ne pas vous suivre. Mais si c'est rapide, c'est trop bon de vivre. Je pars pas solitaire, je vous vois tout autour. Fermez mes paupières, merci pour l'amour.
C'est hyper esthétique, tout l'univers.
J'ai pas que ça à faire, j'ai pas que ça à faire.
Et la vie chronophage, prends ma tête en otage, prends ma tête en otage. Je vais profiter comme un salopard, c'est mon jour de départ, c'est mon jour de départ. Y'a rien de criminel, à trouver ça mortel, à trouver ça mortel.
Bon, si on a le temps tout à l'heure, on l'écoutera à la toute fin de cette émission.
Chouette. C'est vraiment chouette, hein. je fais une découverte.
Toi, tu découvres ?
Je découvre.
Babel, tu connaissais ?
Non.
Bon, très bien, tu peux rentrer chez toi. Et Julien, toi, tu découvres aussi
J'ai découvert, j'ai écouté avant de venir.
Cette semaine, voilà, tu me disais.
Et du coup, j'ai vraiment beaucoup.
Ouais, j'ai pas bien bossé, moi. Mais...
Ouais.
Excuse-moi, mais j'apprécie.
Y a aucun problème.
Et c'est principal.
À ta décharge, c'est à peine en train de sortir.
À toi,
ça sort tout juste du four.
C'était incroyable, évidemment. Olivier Pia. Mais...
Dans quelques minutes,
tu
on découvre
le
titre
ça,
phare du moment. On l'écoutera tout à l'heure. Vous l'avez peut-être croisé sur les réseaux sociaux avec une super esthétique, comme je disais tout à l'heure, un joli clip. Et de circonstances, puisqu'on a beaucoup parlé de la rentrée scolaire. La chanson s'intitule « Les enfants sont des enfoirés ». Des gros enfoirés, même.
Oui, dans le refrain, mais le titre, c'est « Les enfants sont des enfoirés ». Restons, okay, restons sobres.
Faut pas pousser, effectivement. Tu veux développer, peut-être, cette idée ?
Que les enfants sont des enfoirés ?
Oui, ben, bien sûr.
Les enfants sont des enfoirés. Bah, écoute, développer cette idée, comment dire ? À la fois, je pense que tout parent qui n'a pas sauté de joie en casant ses gamins chez les grands-parents un jour pour un week-end et de peinard, et faire ce qu'il veut avec son ou sa conjointe, me jettera la première pierre.
Voilà. C'est
marrant.
C'est
un signe, ça. C'est
ce que je voulais dire tout à l'heure en lançant la chanson. Qu'on me jette la première pierre si personne n'a pensé ça.
Et puis enfoiré, c'est une insulte que moi je trouve tendre.
Hein. Évidemment.
Il y a les gens que j'aime pas, je les traite pas d'enfoiré. Hein.
Oui, ouais, tout à fait. Ouais. L'année dernière, tu étais venu faire la transition, hein, fin de Babel, début de Rookin. Comment était perçue cette nouvelle aventure ? Alors les premiers concerts, les premiers retours ?
Alors, bien perçu, après c'est compliqué de faire un bilan parce que je dois dire qu'on n'a pas fait beaucoup de concerts malheureusement depuis...
Vous avez été un peu évincé.
Février-mars dernier, il s'est passé un truc, je sais pas pourquoi, bon, on avait plein de dates logiquement et il ne s'est pas passé grand chose. Non mais plutôt bien, les retours sont assez positifs concernant en tout cas les deux titres qu'on a sortis depuis juin, à savoir Cyborg et puis Les Enfants. Ça se passe bien. Les quelques concerts qu'on a fait, on a joué quand même. On devait jouer à Tempo Rive et puis ça a été annulé.
Forcément.
Et donc on a joué au Cercle Rouge.
Un article, ouais.
C'était organisé par la ville, je crois. Enfin, et puis aussi par Culture Barbare.
Ah, d'accord.
Ouais, ils ont fait plein de petits événements dans des petits lieux histoire qu'il se passe un peu, qu'il y ait un peu de vie quand même.
Génial.
Donc j'ai trouvé ça chouette qu'ils fassent ça et les retours étaient assez positifs et à la fois surpris et en même temps content. De retrouver autre chose aussi, quoi. Enfin, qu'il y a une espèce de filiation, parce qu'il y a nous, il y a nos gueules, nos voix, puis il y a une façon de faire, certainement, mais c'est encore autre chose, donc on est assez content de s'être réinventé.
Dans les mois qui viennent, on va découvrir des nouveaux titres de Rockin, Sébastien, c'est ça ?
Ouais.
Tous les mois, tu te lances le défi de sortir un...
Exactement. L'idée, c'est qu'on sorte là encore deux titres d'ici la fin de l'année, et l'année prochaine, soit on sort un objet comme un EP, voire un album, ou alors on continue de sortir des titres comme ça, au coup par
D'accord.
coup. On verra, on se donne le temps encore d'y réfléchir.
Avec un bel appui des réseaux sociaux derrière, une belle...
Oui, c'est l'idée, puis on n'est pas tout seul, on est accompagné, on a un tourneur qui aimerait bien tourner plus d'ailleurs.
J'imagine. Ouais.
Mais déjà il est là dans les starting blocks, on a un distributeur.
Il y a Topette qui va faire un article sur vous.
La Topette, ah oui, on est en une de la Topette, je crois, pour le morceau de décembre, janvier, je crois, il me semble. Hein. Enfin, on en parlera après. Mais...
Il me semble aussi. Ouais.
Donc voilà, ça se passe bien, ça se passe bien. Là, au niveau presse, on est blindé.
Tu dis qu'ils ont glissé cette enveloppe là, vas-y.
et pour l'afterwork de Contre-Pouvoir, remets-toi en condition quand on inspire. Pour Babel était plus politique. Est-ce que ça te manque, ça ? Est-ce que la plume te démange un peu ?
Ben, en fait, Babel, c'était plus politique. Je ne sais pas si c'était plus politique. C'était peut-être plus premier degré politique, plus critique sociétale.
Sociétale, ouais.
Là, moi, j'ai l'impression d'être... pour moi, dire les enfants sont des enfoirés, c'est marrant parce que j'y mets quelque chose d'assez politique. C'est-à-dire, tu vois, tu parlais de la réalité tout à l'heure et de parler de la réalité des gens. Aujourd'hui, moi, j'essaie de parler de la réalité que je vis et que je vois autour de moi de façon concrète et de mettre aucun phare dessus. D'être le plus sincère possible et justement quand t'es sincère à la fois toi c'est pas forcément facile et à entendre ça peut un peu défriser ou crisper de dire que les enfants sont des enfoirés, que la parentalité c'est pas tout rose et que c'est pas que génial,
ouais. Bah,
c'est aussi politique, c'est-à-dire que avoir des gamins c'est aussi se cogner la réalité, c'est aussi faire des courses tout le temps, c'est aussi s'acheter une grosse bagnole, c'est aussi consommer, c'est aussi tout ça d'avoir des mômes. Et ben les enfoirés de gamins, on est prisonnier de l'amour qu'on a pour eux, mais c'est aussi tout un truc dans lequel on s'enferme et c'est aussi ça, pour moi ça c'est assez politique. Puis il y a un deuxième maintenant que j'y pense. Tu vois, c'est bien parce que tu me fais cogiter. Il y a un deuxième sous-texte politique.
Bien fait de venir, tu vois.
Ah ouais, je regrette pas. C'est que de dire les enfants sont des enfoirés, c'est qu'en réalité, je leur parle comme à des individus. Et en fait, paradoxalement, c'est une façon de les considérer, en fait. Et non pas de les mettre à part, mais... Mais ouais, c'est finalement hyper respectueux de dire que les enfants sont les enfoirés.
Ouais, c'est intéressant. Tu sais que si tu as la plume qui te démange en dehors d'écrire des chansons pour Rockin, tu peux aussi lancer des idées de sujets sur Info la Topette. Hein, c'est vrai, Julien ?
Tout à fait.
Avec grand plaisir. Je ne manquerai pas si j'ai une idée.
Je lis le macaron. Hein. Vous avez des infos à balancer, des pratiques à dénoncer, des patrons véreux, un boulot qui vous pèse ou toute autre idée qui, selon vous, mériterait sujet. Je m'adresse évidemment à tous les gens qui travaillent chez Richer. Écrivez-nous à infolatopette.fr avec un arrobase au milieu. Bien.
Tu dois pas sortir un roman prochainement, toi ?
Tu restes avec nous. Tu restes avec nous, Sébastien. On décortique le premier numéro de la Topette et vous découvrirez qui est Julien Carninon, qui sera l'invité de Nicolas Aubinel à la librairie Richer ce samedi 19 septembre. Je vous l'ai promis, les enfants sont des enfoirés. Que celui donc qui nous jette la première pierre, ça on l'a dit, c'est l'afterwork de Radio Campus Angers. Merci d'être avec nous. Allons-y, Clément. Merci.
Merci, Clément.
Magnéto.
Les enfants sont des gros enfoirés. Oh, on s'attache, on a les pieds, les poings liés. Les enfants sont des gros enfoirés. Dans le paradis, on est enfermés.
Ouais. Tu me tords la main quand se tord ton utérus. Pour la terre, un humain. Et pour toi, 20 kilos de plus. Il n'aura jamais faim ni soif. Mais faut que je trouve du taf. On va s'aimer et on va s'endetter sur 20 ans. Dans un nid doux, rien qu'à nous. Plus doux que l'enfant qui te défonce le minou.
Les enfants sont des gros enfoirés. On a les pieds, les poings liés. Les enfants sont des gros enfoirés. Dans le paradis, on est enfermés.
On prend cher nous deux. Quand les potes voient nos bagages, nos valises sous les yeux, ils nous souhaitent bon voyage. Il faut montrer le bon exemple. Ils nous imitent, ils nous samplent. Mais je vois pas quoi lui montrer si le monde est foutu. Même s'il reste un peu d'espoir, moi je lui dis tu arrives un peu en retard.
Les enfants sont des gros enfoirés. On s'attache, on a les pieds, les poings liés. Les enfants sont des gros enfoirés.
L'amour on m'escroque. Est-ce qu'on est des poulets, des coqs qui niquent pour gonfler les stocks?
Je dis pas ça par provoque.
Est-ce qu'avec l'amour on m'escroque? Est-ce qu'on est des poulets, des coqs qui niquent pour gonfler les stocks?
Je t'embrasse mon bébé phoque, mais vraiment.
Les enfants sont des gros enfoirés. On s'attache, on a les pieds, les poings liés. Les enfants sont des gros enfoirés. Dans le paradis, on est enfermés.
Bien, l'afterwork de Radio Campus Angers, le groupe c'est Rockin et cette chanson, les enfants sont des gros enfoirés. Ça fait du bien de le dire, tu veux le dire, Nicolas ?
Ouais, t'es un gros enfoiré.
Non, les enfants !
Non, toi. Mais c'est une marque d'affection, on l'a dit tout à l'heure.
Le journal trimestriel La Topette, vous l'achetez près de chez vous, la liste des revendeurs sur latopette.fr, notamment la librairie Richer, c'est vrai, rue Chaperonnière, son aimable directeur est avec nous.
Diplomate aussi, Olivier, j'aime beaucoup.
Voilà. Oui, évidemment, c'est mon ami aussi.
Ouais, c'est l'ami de beaucoup de monde. Hein. Un bel enfoiré lui aussi.
Nicolas, quand Julien vient te demander de prendre la Topette dans tes rayons, Bon, je sais pas, ça s'est passé comme ça,
c'était mais pas avec moi, c'était avec
la collègue, ouais. La collègue à toi.
Ouais.
Comment ça se passe? Tu lis, enfin vous réunissez ou vous lisez d'abord, vous réfléchissez, vous consultez, ou alors c'est un soutien tout de suite pour la démarche locale déjà?
J'étais pas là pour, je sais pas comment procéder, mais en règle générale.
Tu viens de nous dire, tu travaillais tout le temps, et à chaque fois je te demande, t'es
oui,
pas là.
On est tombé sur les rares jours de congé à l'été quand on est passé.
Pas forcément, mais en tout cas je fais confiance aussi à mes collaborateurs et collaboratrices. Mais non, c'est important de regarder ce qui me dit. J'en veux pour preuve, on fait des rencontres régulièrement ou des dédicaces.
Ouais.
Et une fois parti dans le flux de des propositions qui me parvenaient, j'ai pas pris le temps de regarder. C'était un texte sur la Seconde Guerre mondiale, mais il y avait rien de tendancieux en soi. J'ai accepté parce que c'est quelqu'un qui connaissait. Et il se trouve que la personne, elle était négationniste en fait.
Ah merde.
Et je me suis rendu compte sur le coup.
À la vache.
Pluie de critiques et à raison des internautes, critiques Google et tout ça. Là, c'est le côté positif aussi, hein, malgré tout, c'est qu'à un moment donné, bah ouais, là, c'est là qu'il faut faire gaffe. On a aussi, nous sommes un commerce, mais on fait en sorte de ne pas avoir de poids politique. On est apolitique en soi. Malgré tout, il y a des sujets, racisme, négationnisme, genre de choses qui sont ancrées, en tout cas profondément dans notre.
Dans des valeurs.
Ouais, dans nos valeurs. C'est impossible, quoi. Et donc, il faut faire très attention, très attention. Et encore plus pour nous. Libraire, ça c'est pas comme tu déposes un magazine chez le coiffeur et tout ça,
ouais,
tu fais
ouais,
pas gaffe, ça n'a pas trop d'impact, t'en es clair.
Voilà, tu nous racontes l'histoire de la boulette, moi je te demandais l'histoire de la topette.
Je sais, je te parlais, pour parler de la boulette, il fallait parler. Et la topette, effectivement, bah, on a vu tout de suite, mais c'est surtout à travers les échos qu'on parlait du bouche à oreille. Je dirais presque que le bouche à oreille est arrivé avant qu'on ne l'ait entre les mains.
Ah d'accord.
Ouais, c'est ça qui est impressionnant, je sais pas, dites que vous n'avez pas de plan de com. Mais ça, je suis étonné quand même.
C'est les réseaux,
vous avez dû.
Même pas, parce qu'on n'a pas non plus des capacités de communication sur les réseaux sociaux.
Mais quelque chose qui a fuité, qui a magnifiquement fuité. Et qui,
je sais pas, je pense qu'il y avait une attente, en fait, tout simplement.
Ouais, ouais, c'est
une presse, indépendante sur Angers et Maine-et-Loire. Et après, on parlait des distributeurs, et c'est super important parce qu'on a tenu à être distribué dans les grandes librairies comme Richer, aussi dans des magasins bio, mais aussi dans les campagnes, dans plein de petits villages où on est dans des bars tabac, des endroits qui sont populaires. C'est pour ça qu'on a un prix qui est accessible à notre avis pour ne pas être lu que par une classe éduquée, mais par tout le monde.
Ouais.
Et en fait, quand on allait présenter le journal au kiosque, bah, eux, ils ont tout de suite accroché qu'on parle des régions et tout ça. Et c'est eux qui ont beaucoup joué parce qu'ils en ont beaucoup parlé.
Il y a eu des refus ?
Très très peu. Franchement, c'est plus parce que des gens, ça les embêtait d'avoir un titre en plus. Il y a un gros problème avec les distributeurs de presse, on n'en parle jamais. On les voit un peu comme la dernière roue du carrosse, mais pourtant, ils sont super importants dans la diffusion de la presse. Et c'est des gens qui sont vraiment maltraités, ils font des horaires de malade, c'est des gens qui sont ouverts 7 jours sur 7, de 6h30 à minuit, qui gagnent pas des fortunes. Et il y a eu beaucoup de soucis avec Prestalis, on en a parlé. Et vraiment, ils ont beaucoup de difficultés et beaucoup de mérite, parce que c'est des gens attachés au papier. Ouvrir une petite maison de la presse dans un village, c'est pas anodin. Et voilà, je tenais à les saluer. Et ils nous ont tout de suite fait confiance dans leur grande majorité.
Ouais, grosse difficulté, effectivement, nous on était au premier chef, parce qu'on est... juste après le confinement, il y avait déjà des problématiques. Ils sont en redressement judiciaire.
Oui, parce que Librairie Richer fait évidemment librairie et presse. Maison de la presse.
Ouais. Et on a pu lancer une maison de la presse, mais on l'a encore sur le vent, mais oh mince, faut pas le dire. Je fais que des boulettes ce soir. C'est génial, c'est génial.
On coupera en montage, t'inquiète.
Ouais, t'es mis, menteur. C'est du direct, je sais bien. Non, mais on voit toute l'importance et les gens ont une appétence pour ça. Et vous arriviez pile poil justement où les gens étaient en recherche aussi. Ils en avaient un appétit véritable pour une lecture différente. Et vous inscrivez complètement là-dedans, quoi. Mais c'est chouette, ça fait du bien, c'est frais, ça donne un petit coup de pied au cul aussi. Voilà, ça nous réveille un peu. Parce que t'étais endormi, Olivier.
Non, pas du tout, non, mais si, t'écoutais avec passion. Non, pour moi, la topette, c'est un journal qui ne donne pas une voix, mais qui donne à réfléchir. Voilà,
c'est bien résumé.
Exactement.
Tu l'as travaillé, celle-là.
Ouais, c'était énorme. Parcourons la topette avec un très chouette premier. Enfin, très chouette, c'est un peu couillon ce que j'ai dit. Une boulette. Pas très chouette parce que c'est un drame, évidemment, mais un très bon premier article. Comment on a supprimé mon village? Ça te parle, toi, Sébastien? On en parlait tout à l'heure.
Ça a été un sujet dans mon village aussi, ça.
Ouais.
Et ouais.
On parle évidemment des. Comment on appelle ça?
Les communes nouvelles.
Les communes nouvelles, les regroupements de communes. Ouais. Avec un super démarrage, là. Il y a une super intro qui cache un. une plume de romancier, je ne sais pas qui l'a fait chez vous.
Bah, c'est du vécu, hein, c'est un des journalistes qui a vu son village, comme toi, se voir regroupé dans un plus grand village et qui raconte ça pour ensuite expliquer ce qu'il y avait derrière. Quoi.
Ça faisait partie des sujets à traiter en priorité pour vous tous dans le comité de rédaction ?
Bah, c'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur parce qu'on sentait un gros ressenti dans la population au cours, quand on a parcouru les routes du Maine-et-Loire là-dessus. Il y a vraiment une colère des gens parce qu'on a l'impression qu'on a fait ça dans leur dos, qu'on ne les a pas consultés. Et c'est quelque chose qui a peu été traité. On se disait qu'on arrivait un peu après la bataille parce que les élections sont passées depuis quelques mois. Et non, en fait, on a plein de retours, encore plein de gens qui nous écrivent pour nous raconter comment ça s'est passé chez eux. C'est assez éloquent. Pour résumer, il faut quand même savoir qu'en 6 ans, le Maine-et-Loire a perdu la moitié de ses villages.
C'est un des rares départements.
C'est un département même le recordman en France.
Ah ouais, là-dessus. Carrément.
Je crois, juste, je te coupe 2 secondes, je crois que c'est pas une impression. Hein. Il n'y a pas eu de consultation digne de ce nom. Et tu le dis, je crois, dans ton article, ceux qui ont vraiment été consultés ont refusé massivement. Donc je pense qu'ils n'ont pas voulu se frotter une consultation.
Il y a deux maires qui ont eu le courage de consulter leur population, de faire un référendum. Et le nom a été massif dans tous les cas.
Nous, on a été conviés,
je me rappelle. Et dans ces cas-là, ça n'a pas eu lieu d'ailleurs.
Nous, on a été conviés, je me rappelle, à une réunion informative et non pas consultative. Et en plus, qui était complètement floue, personne ne s'est déplacé parce que c'était une réunion, on voyait même pas de on nous parlait quoi, donc ça a été et après ça servait d'alibi justement pour dire bah si regardez on a fait quelque chose, on voulait vous tenir au courant mais on voulait pas être tenu au courant, on voulait avoir un poids aussi et c'est là peut-être que dans cette histoire de commune nouvelle quelque chose qui fout les boules, c'est que au-delà de l'aspect mon village disparaît, moi quelque part je m'en fous un peu en fait, enfin c'est juste qu'un village c'est là où ce qu'on appelle la démocratie peut s'exercer de façon très concrète. C'est-à-dire que tu vois les élus, tu les croises à l'épicerie, tu croises au troquet, tu discutes avec eux, tu n'es pas d'accord, etc. Aujourd'hui, c'est devenu une infrastructure très grosse, une espèce de gigantesque, à notre échelle évidemment, tout est relatif, bureau d'administration, où il faut prendre rendez-vous, on ne connaît pas les gens, etc. Ça s'est complètement déshumanisé.
Les Français sont très attachés aux élections municipales, hein. Et c'est pour ça, comme tu dis, bien sûr.
Parce que c'est à échelle humaine.
En revanche, est-ce que tu peux nous rappeler en quelques lignes qu'est-ce qu'on vendait dans ces cas-là, par exemple, une réunion d'information ? Pourquoi ça devait être une bonne idée de réunir et de faire des communes nouvelles ?
Ce que j'ai su après coup, c'est que logiquement, ce qu'on vendait à la décharge des gens des conseils municipaux, ils ont eu très peur, en fait, que leur budget soit coupé de 30% dans mon souvenir. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est ce qu'on nous avait dit.
Le budget que l'État alloue aux communes.
Voilà, c'est-à-dire que le préfet, de façon symbolique, a mis un flingue sur la tempe des élus en disant... Si vous ne passez pas en commune nouvelle dans les mois qui viennent,
c'est le côté Babel qui
ressort. Janvier 2016, eh bien je vous coupe 30%. Non, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Je vous coupe 30% des subventions. Moi, j'appelle ça des méthodes de bandits. Parce qu'on menace les gens et on leur dit pas, vous savez, c'est bien, on informe, éventuellement on fait de la propagande, tu vois. Mais là, il n'y a même pas de propagande, c'est menace directe. Vous démerdez pour faire passer la commune nouvelle auprès de vos populations. Éventuellement, faites passer ça sous le manteau parce que ça passera pas. Et l'idée, c'est qu'on fasse une commune nouvelle, sinon, donc il y a 30% de sub en moins. Il s'avérait que cette menace, en plus, n'a pas été mise à exécution pour les quelques villages qui ont refusé. Donc c'était une menace en l'air, mais c'était une menace quand même. Donc c'est pas des méthodes très, on va dire, démocratiques, puisque le maître mot aujourd'hui, c'est qu'on est dans une belle démocratie républicaine.
Et Julien, pour revenir sur ce qu'on a vendu, en fait, quel était l'avantage aussi ? C'était une espèce de... des économies d'échelle administrative, c'est ça ?
Enfin... Je pense que c'est avant tout idéologique. On parle beaucoup du millefeuille territorial français, que la moitié des communes de l'Union européenne sont en France. Et c'est comme ça, c'est ce qu'on a fait avec les régions il y a quelques années. Faut réduire. Et effectivement, sous des soucis économiques, on dit que ça va coûter beaucoup moins cher, mais c'est pas vrai en fait, parce qu'il y a beaucoup de petits élus qui font un travail bénévole en fait. Souvent, c'est le maire qui va aller remplacer la jardinière dans la rue principale. Et là, au contraire, avec ces communes qui ont grandi, ils ont dû recruter des directeurs de service, des comptables. Et le problème, comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'on éloigne de plus en plus le citoyen du lieu de la démocratie, du pouvoir. Et ça crée un ressenti par rapport à tout ça.
Ouais, c'est ça. C'est incroyable. L'article est vraiment passionnant. Je vous invite à aller consulter La Topette Chez Richer ou l'acheter. C'est mieux encore, évidemment. Tu l'as lu, cet article-là ?
Ouais, celui-là, ouais.
C'est passionnant.
Ouais.
Vraiment. Enfin, ça fait peur aussi, attention. La lourdeur administrative en France...
Après, c'est vrai que pour faire l'avocat du diable, il y a toujours ce concept qu'on n'arrive pas à le faire malgré le changement des régions et tout ça, c'est la forme de décentralisation. On n'y arrive toujours pas. Tout est centralisé auprès de Paris. C'est une des voies. Je ne dis pas qu'elle est bonne, je ne dis pas qu'il faut la suivre. Les méthodes n'ont pas été forcément bien faites. Mais il y a un moment donné, il va falloir aussi arriver à... Alors, je ne sais pas forcément une économie, je ne sais pas dans quel cadre, mais cette décentralisation doit passer aussi par un poids un peu plus fort, et économiquement et de représentation, que ce soit des communes, alors communauté de communes. Je fais mon école du diable, hein, je ne connais pas le sujet par cœur, mais c'est peut-être une des raisons aussi. Quoi.
Ouais, ça s'entend, mais je pense qu'en revanche, ça ne se fera pas sans la vie des citoyens et sans les faire participer.
C'est ça. C'est là que le bas blesse. Ouais.
Alors, page 4, enfants handicapés, le scandale du transport scolaire. L'article est très offensif vis-à-vis d'une société notamment qui a remporté un marché public auprès du Conseil Général. C'est une société qui emmène les gamins à l'école, les gamins handicapés, dont les services donc, sont médiocres et les conditions de travail plus que douteuses. Les salariés en parlent. Vous avez contacté les salariés. Dans ce cas, on parlait du droit de réponse tout à l'heure. Là, ils n'ont pas souhaité participer à l'article, en tout cas à ce moment-là, parler. Est-ce qu'une fois que l'article est passé... Oui.
Ils ont pu répondre quand même.
Ils ont pu répondre, mais ils avaient vu l'article.
Ça, c'est une règle justement dans la déontologie journalistique. On n'envoie pas un article avant pour la lecture. C'est, on pose des questions et ensuite on publie leurs réponses.
D'accord.
Après, les faits qu'on avait, on leur en a parlé, ça c'est évident.
Oui, bien sûr. Bon, je pense qu'ils étaient bien au courant aussi. Oui. Certainement.
Il y a eu un mouvement de grève justement qui a duré qu'une journée, mais donc ils étaient au courant.
Oui, parce que effectivement, les gens qui travaillaient, beaucoup de retraités pour compléter les salaires ne voulaient pas faire ça aux enfants.
C'est ça.
Forcément, donc ils se sont remis au travail après une seule journée de grève. On dézoome un petit peu de notre territoire avec un très bel article sur Center Park aussi. C'est un scandale, ça, c'est un truc hallucinant.
Ouais.
Mais à peine caché en fait.
Non, et qui est ressorti dans l'actualité récemment parce qu'il y avait un projet en Isère et
ouais.
Les gens se sont mobilisés, contre ce projet. Ils ont réussi à gagner et Center Park a abandonné ouais. ce projet. Et là, ce qu'on montre en fait surtout, déjà, c'est que c'est Center Park vend une idée de nature, mais en fait, qui est plutôt du greenwashing parce qu'il y a. Il n'y a rien de vraiment écologique dans ce type de parc d'attractions. Et surtout, c'est qu'en fait, c'est que c'est massivement financé par de l'argent public. Parce que Center Park, c'est la bonne idée de faire jouer la concurrence entre les territoires et de faire monter les enchères pour essayer d'avoir le plus de subventions possible. Ils ont fait ça avec le Maine-et-Loire et le département de la Vienne. Ça s'est fait dans la Vienne, juste à la frontière. On est à 3 km de chez nous. Et en plus, on démontre qu'il y a des carottes politiques, notamment Raffarin, qui aujourd'hui siège au conseil d'administration.
Avec une belle rémunération, enfin peut-être pas une rémunération, mais en tout cas de beaux avantages financiers.
Il y a des associations qui sont bien montées contre l'installation de ce Center Park en Maine-et-Loire, parce qu'il y avait un petit lac dans le coin, et il y avait une espèce, ils ont réussi à trouver, ils sont démenés pour trouver une espèce de moustique un peu à part, où on ne pouvait pas justement installer et puis détruire ça. Quoi.
Ah ouais.
Donc c'était un des éléments parmi tant d'autres, j'imagine. Et heureusement qu'ils sont partis, enfin malheureusement pour la Vienne, heureusement pour nous, parce que c'est un beau petit coin du côté de Gênes et tout ça, c'est très beau.
D'accord. On sait des choses.
Ça montre une fois de plus que quand les citoyens se mobilisent, ils peuvent faire bouger les
exactement.
Choses.
Exactement.
Ouais, complètement. Mais bon, comme les communes regroupées là, c'est quand on ne sait pas, hop, ça se fait, et puis après, c'est vrai, évidemment, il est trop tard. Angers aux mains des robots, je vais aborder ce sujet, on revient sur le cyborg de Rockin tout à l'heure. Il y a quand même du bon, non, à ce qu'un lampadaire n'éclaire plus quand il n'y a personne dans la rue.
Tout à fait, mais c'est juste avant ce que...
Vendez-nous du positif, quand même. Olivier veut du positif, du bonheur, Olivier.
Ça parle de la ville intelligente, de ce qu'on appelle la Smart City. C'est pareil, on apprend plein de choses, c'est vraiment passionnant. C'est la vraie investigation, quoi. Il y a vraiment du fond. Mais je me disais, mais c'est quand même pas mal.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Je pense qu'il faut tout remettre en question, et je pense que la technologie, c'est un peu... un espèce de dieu aujourd'hui, un tabou qu'on ne peut pas questionner alors qu'elle a vraiment rempli nos vies. Et c'est d'autant plus important de la mettre en question, de voir vraiment quand elle est utile et quand elle ne l'est pas. Et voilà, là, dans le cas du territoire intelligent, ce qu'on démontre aussi, c'est qu'il y a beaucoup de communication, mais il y a quand même des gros enjeux financiers derrière. C'est-à-dire qu'il y a des groupes privés qui vont récupérer des compétences de la ville, des savoirs qui étaient détenus par les agents de la ville d'Angers. Et ça, on les brade au privé, ça pose des questions. Et je pense que c'est bien qu'on en discute. C'est bien, et je vois que ça rentre dans le débat. Depuis qu'on est sorti, j'ai lu des choses chez certains de nos confrères. Donc voilà, c'est bien que les Angevins se questionnent par rapport à cette question de Smart City.
À ce sujet, j'invite tout le monde à aller voir Effacer l'historique de Caverne et de l'Épine.
Ah oui, c'est bien.
Qui est un film. C'est Caverne et de l'Épine, hein, c'est un peu foutraque, mais c'est très bien filmé, bien joué. Et ce que ça raconte, ça parle un peu de tout ça et ça fait du bien.
Avec Blanche Gardin.
Ouais, Blanche Gardin, Podalides. C'est
parce qu'il tape sur la cuisse, c'est extraordinaire.
Oui, exact. Oui, cet extrait est génial.
Est-ce qu'il y a une envie d'aller chercher un petit peu le scandale de ce médiapartisé?
Scandale, non, de faire des révélations, oui, c'est le boulot de journaliste, hein, tout simplement. Premier rôle.
Indépendant.
C'est s'il y a des affaires, de les sortir et de ne pas les cacher à la population, justement. Donc, s'il y a des choses, on le fera.
Allez le lire de fond en comble, hein. Ça s'appelle La Topette, c'est récent, ça a une quinzaine de jours et c'est disponible pendant les 2 mois et demi, 3 mois qui viennent, puisqu'il y aura a priori un prochain numéro à la fin de l'année.
Un numéro en décembre.
Hein, c'est ça l'idée. La Topette, disponible chez Richer, où on pourra faire une rencontre samedi chez Richer.
Ah, complètement.
Faut que tu nous racontes, Julia, qui a
oui, oui, non, et même La Topette, on pourra faire. Ça pourrait être intéressant d'inviter les journalistes.
Ah, de faire une rencontre
pour le prochain numéro. Et puis bah dire tout, voilà, c'est sa vertu vraiment à être montré à tout le public.
Et d'aller rencontrer les lecteurs.
Rencontrer les lecteurs, qui est une forme de débat où on axe sur un sujet qui sera débattu, on ne sait pas encore, bien entendu, mais enfin vous aussi certainement, mais ça peut être intéressant. Au contraire, moi, tous les échanges d'idées comme ça, on essaie d'ouvrir un petit peu. Effectivement, il y a une rencontre ce week-end, on va en parler dans un instant, mais. On ouvre un petit peu, parce que je suis davantage sur les rencontres littéraires de romans, mais de plus en plus, on fait des rencontres, que ce soit sur la neuropsychiatrie, sur l'anthropocène, sur les zéro déchets, sur...
Un petit négationniste de temps en temps.
Non, arrête, c'était une délicatesse et je me suis planté, mais après, moi je le dis.
C'est Sébastien qui m'a dit, dis-le.
Ceci dit, si tu l'avais su, est-ce que tu aurais, t'aurais annulé, t'aurais pas fait de rencontre avec lui?
C'était pas une rencontre.
On sort de la démocratie alors. Hein.
J'imagine
c'est,
que
c'est, sur le non, mais j'imagine c'est juste une dédicace. Déjà, c'est juste une dédicace. C'était juste à présent. C'est après les propos qui tenaient quoi. Et,
ouais.
J'étais là. Donc on a abrégé.
Parce que peut-être que dans ce cas-là, moi je me pose la question, j'ai pas la réponse,
ouais.
Mais de lui opposer un contradicteur, enfin de justement, parce que plutôt que de censurer ce type de personnes qui se disent eux-mêmes censurées,
bien sûr.
Et du coup, par contre, qui ont pignon sur rue sur les réseaux, tous les fourrissons, tous ces mecs-là, voilà, ils ont quand même beaucoup de gens qui les suivent. Et ben ça peut être intéressant parfois, au contraire, de ne pas censurer le débat, mais d'amener quelqu'un de solide en face, un autre historien.
C'est vrai.
Mais après, je dis ça, c'est facile à dire.
Non, mais oui, c'est toutes les difficultés. Mais après, on s'engage dans quelque chose d'autant. Faut pas oublier que nous restons malgré tout un commerce.
Vous n'êtes qu'une humble librairie.
Voilà. Et non, mais c'est vrai, on n'est pas. Là, c'est le boulot des universitaires, des bibliothécaires, des centres du livre ou des médiathèques.
Et en même temps, vous êtes un lieu qui peut. Où les choses se rencontrent.
On peut le faire, mais pas sur. Sur des sujets comme ça,
c'est chaud.
J'ai pas envie de donner la parole à ça.
Tu bosses déjà suffisamment.
Quelle honte. Non, mais c'est. Il y a des sujets qui peuvent être débattus, mais pas ça. Maintenant, on arrive dans une société où il y a des. On parle de la robotisation, on parle des handicapés. Ouais, là, on peut. Qu'il y ait des personnes qui puissent être contre le tout numérique, contre le 5G, tout ça. Là, il y a des débats quoi, qui puissent être menés. Mais il y a des sujets.
Non, je comprends carrément.
Mais je comprends aussi. Tout le monde se comprend, c'est formidable. Voilà. Là, par contre, je remets, contrairement à Olivier Pierre, moi, je remets mon masque par-dessus mon nez, parce que c'est pas très citoyen, c'est pas très Covid, tout ça. Et oui, je reçois Julia Kerninon pour la peut-être 4e fois.
Pourquoi t'as les yeux qui brillent tout d'un coup?
Bah, je suis un peu amoureux.
Ah.
Mais de l'autrice. De la femme aussi un petit peu, mais et justement de femme, il en est question dans Liv Maria aux éditions L'Iconoclaste. Liv Maria donne ce livre comblera vraiment tous les amoureux des portraits de femmes. Je dirais même de tous les amoureux des femmes. Et là, mon regard se glisse subrepticement vers Olivier. Cet amoureux des femmes, vil séducteur. Et raconte avec ce portrait-là de Liv Maria. C'est une jeune femme, née d'une mère bretonne sur une île, d'un père norvégien qui est un fin lecteur. Et cette mère taiseuse, elle va se construire dans le silence. Et ce silence, finalement, un drame, je ne dis pas bien entendu, mais un drame va l'amener à bouger de cette île, à s'extraire de cette famille et se construire elle-même. D'autres éléments, on va monter. Elle n'a pas son pareil, Julia Kerninon, pour raconter la banalité des choses, la banalité du quotidien, la banalité d'une femme. Et en même temps, elle va monter au fur et à mesure la tension dans le roman, alors qu'il ne se passe pas grand-chose, mais on va débouler sur. À travers le récit de cette femme-là, elle va peindre le portrait de toutes les femmes, de la naissance à la quarantaine, de, de, de ces femmes éprises de liberté, de ces femmes qui sont éprises dans le secret, qui sont perdues dans leur secret, de ces femmes qui que ce soit de la charge mentale, que ce soit leur plaisir de lire, le plaisir d'aimer, elle arrive à dresser ce magnifique portrait avec une écriture mais qui est vraiment poignante. Elle, de plus en plus, au fur et à mesure, elle arrive non pas à se réinventer, mais depuis que je la connais, elle arrive à nous surprendre dans la simplicité de ses mots. Au fur et à mesure, la pureté de son texte vraiment jaillit. Et j'ai hâte de la recevoir. Et il y a dans cette rentrée littéraire, il y a 511 romans à peu près. Et il y a seulement 65 premiers romans. Elle n'en fait pas partie, mais...
Seulement parce que c'est peu par rapport à d'habitude,
c'est,
10%.
C'est peu, ouais. C'est peu. Ouais. Bon, après, c'est proportionnel, c'est assez problème, mais c'est assez peu. Habituellement, on flirte entre les 90 premiers romans. Elle, c'est pas un premier roman. Mais elle fait partie de ces nouveautés, malgré tout, où, voilà, je pense que le lecteur trouvera la surprise en puisant vraiment dans ces romans-là, dans ces auteurs qui sont pas forcément connus. C'est un peu la bonne nouvelle, entre guillemets, cette rentrée littéraire. Bien entendu, il y a toujours les Amélie Nothomb, il y a, même si ça fait longtemps qu'on l'attendait, Emmanuel Carrère, il y a les Serge Joncourt qui, hélas, n'est plus sur la liste des concours. Ça reste à course des prix, on s'en fout. Mais il y a des auteurs intéressants, mais justement, on n'est pas dans la grosse machine de cette rentrée littéraire et ça donne la part belle à ces auteurs-là. Donc je vous invite à venir samedi à 16h pour rencontrer Julia Kernynon. Je finirai juste sur un petit bout de son texte qui décrit un petit peu près, à peu près ce que je viens de dénoncer. Je suis la fille unique du lecteur et de l'insulaire. Je suis le bébé tonnerre, l'orpheline, l'héritière. Je suis la jeune maîtresse du professeur, la femme enfant, la fille fleur, la chica, la waza, la patiente de Van Buren, la petite amie, la pièce rapportée, la traîtresse, l'épouse et la madone, la norvégienne et la bretonne. Je suis une mère, je suis une menteuse, je suis une fugitive et je suis libre. Elle ne pouvait pas rester là, elle ne savait pas exactement pourquoi, mais elle ne pouvait pas. Mon nom est Liv Maria.
Bien.
Magnifique, ça me donne des frissons.
Ça, ce sont les premières lignes, non?
Non, ça c'est, je peux vous dire, la page 120, je crois. Et non, mais c'est une auteure, au-delà du fait qu'elle soit belle, on s'en fout, mais bon, je l'ai dit parce que je suis profondément amoureux, mais de son texte, de sa plume. Mais non, elle est passionnante. Il y aura d'autres rencontres passionnantes, je le dis comme ça rapidement, parce que il y aura Hervé Bell aussi, un premier roman aux éditions Stock. Il y aura aussi Lola Lafont, Chaviré aux éditions Actes Sud. Il y aura Timothée Demeyer, il y aura un neuropsychiatre, il y aura un historien. Enfin, il y a beau programme. Et peut-être Olivier Ruiz en décembre, si le Covid.
Que tu aurais dû recevoir en mars.
Voilà.
Et,
exactement.
Effectivement.
Mais venez dans les librairies, n'importe quelle librairie, la nôtre si vous voulez, mais d'autres aussi, continuez à aller dans les librairies, il se passe toujours des choses passionnantes, dans les médiathèques aussi, et puis lisez Topette.
Achetez les livres, et la Topette bien sûr. Merci beaucoup et Julien.
Et écoutez Tissi Borg aussi.
Merci beaucoup Julien.
Merci beaucoup pour l'invitation. Merci
de venir, mais avec plaisir. L'un des trois créateurs de la Topette disponible près de chez vous, un point de vente sur latopette.fr, hein, je crois qu'ils sont tous. Un grand merci de ta disponibilité, puis tu es le bienvenu évidemment, tes collaborateurs Trice.
Avec plaisir.
Ou toi-même. Sébastien Rousselet, ambassadeur de Rookin. On découvre deux titres d'ici la fin de l'année.
Ouais, c'est ça. C'est l'idée. On va sortir un titre tout début novembre.
Ouais.
Et un autre, logiquement, en décembre. Voilà.
Bon, bah, et puis moi, je me ferai un plaisir de le faire découvrir voilà, à nos auditeurs. Intérêt. Merci de ta présence, en tout cas, Nicolas Aubinet.
Merci pour l'invite.
Ouais, avec plaisir. La librairie Richet à Angers, évidemment,
merci
on a compris.
Merci de ton invitation, mon bel enfoiré.
Allez acheter des livres. C'est un vrai spectacle d'aller le voir, lui, de toute façon, dans sa librairie, de lui rendre visite. Donc, je t'encourage à aller acheter des livres, comme tu disais, et notamment de passer chez Richet. Merci Clément Looping.
Merci Clément.
Semaine prochaine, ce sont les filles de l'Octobre Rose qui viennent, événement qui nous permet de ne pas oublier les victimes des cancers du sein, mais avec une version 2.0. Alors, est-ce que l'événement a lieu ou pas? Ça se décide en ce moment même à la préfecture, donc je ne sais pas si l'événement sera en vrai, on pourra courir, ou si ce sera un 2.0, peut-être une course dématérialisée. Voilà, on en saura plus la semaine prochaine dans cet After Work. Belle semaine à tous, à bientôt.
Bye bye.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Filer au ciel, tomber en enfer, j'ai pas que ça à faire, j'ai pas que ça à faire. Et la vie chronophage, prends ma tête en otage, prends ma tête en otage. Je vais profiter comme un salopard, c'est mon jour de départ, c'est mon jour de départ. Y'a rien de criminel, à trouver ça mortel, à trouver ça mortel.
J'ai un super toubib, un vrai tueur, j'ai confiance, il a la palme.
Il me dit qu'il me reste 24 heures sans ordonnance et au calme. J'ai dû choper un putain de crabe, un crustacé qui s'incruste. Moi j'aurais voulu un peu de rab, mais j'ai plus qu'un jour tout juste. Filer au ciel, tomber en enfer, j'ai pas que ça à faire, j'ai pas que ça à faire. Et la vie chronophage, prends ma tête en otage, prends ma tête en otage. Je vais profiter comme un salopard, c'est mon jour de départ, c'est mon jour de départ. Y'a rien de criminel, à trouver ça mortel, à trouver ça mortel. Autour de moi dansent tous mes poteaux, pour mon dernier tour complet. Je veux tout le monde sur la photo, je suis malade mais fair play. Mon frangin que je ne voyais plus, dans ses bras vient m'entourer. Alcool tombé comme s'il avait plu, même ma mère est bourrée. Filer au ciel, tomber en enfer, j'ai pas que ça à faire, j'ai pas que ça à faire. Et la vie chronophage, prends ma tête en otage, prends ma tête en otage. Je vais profiter comme un salopard, c'est mon jour de départ, c'est mon jour de départ. Y'a rien de criminel, à trouver ça mortel, à trouver ça mortel. Casse mon ultime verre de vodka, comme dans un film de Costa Rica. Même s'il y a une âme au fond de ma viande, même au bord des flammes, je t'aime et je bande. Ça me tord le bide de ne pas vous suivre, mais si c'est rapide, c'est trop bon de vivre. Je pars pas solitaire, je vous vois tout autour. Fermez mes paupières, merci pour l'amour. Filer au ciel, tomber en enfer, j'ai pas que ça à faire, j'ai pas que ça à faire. Et la vie chronophage, prends ma tête en otage, prends ma tête en otage. Je vais profiter comme un salopard, c'est mon jour.